L'intrépide explorateur de l'Arctique, Robert Peary, fut le premier à atteindre le sommet de notre globe et à planter le drapeau américain là où le nord, le sud, l'est et l'ouest se confondent en un point mathématique appelé le pôle Nord.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Céline Develay-Mazurel, Laure Allary.
Bonjour à tous. Le 6 avril 1909, quand des hommes ont atteint pour la première fois le pôle Nord, l'histoire n'a retenu le nom que d'un seul d'entre eux. Robert Edwin Peary, ingénieur civil de la marine et explorateur américain dont on entend la voix gravée à l'époque sur de vieux cylindres bleus Edison en celluloïde. À ses côtés pourtant sur cette mer de glace qui a tant fasciné et attiré les explorateurs occidentaux, il y avait aussi quatre Inuits et un homme noir, Matthew Hansen, un aventurier aussi important que méconnu de l'histoire de l'exploration polaire. C'est donc à cet homme, Hansen, que nous allons rendre hommage aujourd'hui et justice d'une certaine manière. À l'occasion de la publication pour la première fois en français de son journal de bord, Journal d'un explorateur noir au pôle Nord, écrit en 1912 dans un contexte bien particulier sur lequel nous allons revenir. Car dans ce long roman boréal qu'est la conquête du pôle Nord, il y a la réalité mais aussi pas mal de fiction. Avec une épatante galerie de personnages, soit un capitaine blanc taciturne, assoiffé de reconnaissance et cerné de concurrents, des Inuits dévoués, des anthropologues avides et un explorateur noir loyal, descendant d'esclaves. Le tout sur fond d'Amérique moderne et surtout de folles expéditions sur un immense océan gelé, la banquise arctique.
Il y a deux pôles nord. Le pôle nord géographique qui est le point où l'axe autour de laquelle la Terre tourne vient couper la surface de la Terre. Il y a le pôle nord magnétique, mais il y a un troisième pôle nord qui est le pôle d'inaccessibilité.
On a un bassin océanique très profond, 3000 à 5000 mètres d'eau, mais cette eau est recouverte par une mince pellicule de glace. C'est la banquise. Il y a des tempêtes, il y a des mouvements, et des blocs de glace vont se heurter, vont se fracasser. Ça va se regeler, se ressouder, mais on va avoir effectivement des formes extrêmement chaotiques.
Le pôle Nord est un point unique à la surface de la Terre. Cet axe de la Terre est d'autant plus unique qu'au moment même où on met le pied sur lui, il disparaît. Car la banquise bouge, il est donc inviolé et inviolable.
Kamel Bokir, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est avec vous que l'on va voyager tout au nord du monde sur la planète blanche et découvrir la trajectoire hors du commun de Matthew Hansen, une figure boréale oubliée, méconnue, premier noir à se hisser au sommet de la Terre, premier homme tout court en fait, en tout cas occidental. On va en reparler. Mais là d'abord, on vient d'entendre de grandes figures polaires françaises, dans l'ordre l'explorateur Paul-Émile Victor, le glaciologue Claude Lorius et enfin le grand Jean Mallory, ethnogéologue, éditeur, écrivain et explorateur arctique. Jean Mallory connaît bien cette histoire de Peary et Hansen, puisqu'il a longuement côtoyé lui-même dans le nord-ouest du Groenland, Utak, un des membres de l'expédition de 1909. Vous le citez, vous, d'ailleurs, souvent, Jean Mallory, dans votre préface au journal de bord de Hansen, paru chez Zone Sensible, parce que non content d'avoir traduit ce récit, paru il y a déjà plus d'un siècle, vous l'avez aussi longuement préfacé afin d'aider, en quelque sorte, le lecteur à mieux comprendre, voire décoder le récit de Hansen. Vous, Kamel, vous êtes anthropologue de formation, mais dans un domaine très éloigné des mondes polaires. Alors on se demande, mais comment est-ce que vous avez croisé le chemin de Matthew Hansen ?
Le projet émane vraiment d'une curiosité au départ. Donc moi, je suis de formation plutôt sociologue, mais j'ai beaucoup étudié l'anthropologie. Et j'étais passionné, moi, d'escalade et d'alpinisme. Et donc, j'ai beaucoup lu de ces récits d'anthropologie qui étaient à la croisée de la conquête et de l'exploration. Et c'est dans le journal d'exploration de Robert Peary, de North Pole, que j'ai découvert qu'il avait un compagnon, qui était, au départ était son servant. C'était une sorte de surprise pour moi de découvrir qu'au lendemain de l'abolition de l'esclavage, et en plein air ségrégationniste, un noir se trouve au sommet du monde.
Alors de l'aventure, il y en a eu, et c'est peu dire, dans la vie de Matthew Hansen. Et pour s'en rendre compte, il y a d'abord évidemment ces images en noir et blanc qui sont frappantes de Hansen en costume esquimau, on appelait ça comme ça à l'époque. La première étant évidemment ce portrait qui orne votre édition en français de son journal, avec ce visage noir, buriné, on imagine par le froid polaire, le vent glacial, encadré d'une large capuche de peau de bête. Mais surtout, et c'est moins frappant peut-être au premier abord, mais pourtant ça dit beaucoup de choses, il y a cette carte aussi, qui ouvre quasiment votre livre, Kamel Boukir, une carte des terres extrêmes où Hansen a passé une bonne partie de sa vie finalement. Où est-ce qu'on se situe exactement ?
Alors, on se situe à l'extrême boréal, en un lieu qui a fasciné quasiment dès le Moyen-Âge et qu'on a appelé l'Ultima Thule. Donc, Thule, pour ceux qui ne connaissent pas le Groenland, c'est la pointe la plus au nord qui est habitée par des êtres humains. Et donc, c'est à cet égard, entre autres, qu'elle a fasciné beaucoup de voyageurs, parce qu'on est à une époque où on désire mettre sur les cartes géographiques l'intégralité du monde qui doit être connu. D'ailleurs, dans la carte qui figure dès les premières pages, effectivement, on voit par exemple que le Péri a laissé son nom à une terre.
Oui, tout à fait, parce qu'on voit la terre de Péri, puisqu'on se situe alors au-delà du 80e parallèle de latitude nord, oui. Au-delà du cercle polaire, donc c'est le très grand nord. Il y a comme ça, on peut voir effectivement ces terres dentelées qui sont des îles d'ailleurs. Il y a la terre d'Ellesmer qui est aujourd'hui canadienne. On peut voir la terre de Péri. Et en fait, on peut voir aussi cette mer de Lincoln. Et on ne le figure pas sur la carte, mais en tout cas, les trois quarts du temps, cette mer de Lincoln est gelée. Donc il y a une continuité comme ça entre la terre et la mer.
Tout à fait. Alors c'est ce qui rend la conquête du pôle Nord très compliquée. C'est pas simplement que la banquise est mouvante, c'est qu'en plus elle crée du coup tout un relief géomorphologique dont par exemple Jean Mallory était l'un des spécialistes. Et donc l'un de ses titres éponymes qui s'appelle Humox désigne précisément une sorte de grande ride de pression qui sous l'effet, c'est un peu comme les plaques tectoniques.
Qui remonte comme
qui
ça.
Qui remonte et qui crée en fait, moi avant de lire ces récits j'avais un imaginaire de désert plat. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il y a vraiment des grands amoncellements de glace. Et à cette époque-là, donc, dans l'expédition dont va faire partie Matthew Hansen, en fait, ils vont les abattre à coups de pioche métallique. Donc c'est vraiment, comme le disait Mallory, on peut les voir comme des sortes de héros de Plutarque, quoi. C'est une sorte d'enfer, alors qu'on est dans une sorte d'endroit où il fait très très froid. C'est vraiment un labeur éreintant. Parfois, ils peuvent marcher sur des dizaines de kilomètres où la banquise n'est pas tout à fait gelée, donc elle est quasiment ondulante. Donc ce qu'on peut sentir dans le récit de Hansen, dans son journal, c'est toute la dimension sonore de cet univers, où les choses craquent, la glace constamment est parlante, elle bruise des... Et donc il y a tout un univers inquiétant qu'arrive à bien restituer Matthew Hansen.
Alors vous dites éreintante, cette expédition, ces expéditions, Péri va en faire 8, 7 avec Hansen. Dès 1898, il avait monté le Péri Arctic Club, un club de New Yorkais fortuné qui servait en fait à financer ses coûteuses expéditions polaires, parce qu'au bout, il y avait l'exploit. Paul-Émile Victor archivina 1959 à l'occasion des 50 ans de la découverte du pôle.
C'était un exploit particulier, car il avait déjà fait l'objet de nombreuses tentatives. C'est également un exploit particulier par la méthode appliquée par Péri pour y arriver. D'abord, Péri, pour préparer cette expédition, a fait 23 années d'expédition dans l'Arctique avant de préparer son expédition au pôle Nord. Et ces 23 années d'expédition au cours desquelles il a découvert des quantités de choses n'avaient qu'un seul but final, celui d'arriver au pôle Nord. Il est d'ailleurs arrivé au pôle Nord quand il avait 53 ans. Le plan d'attaque, eh bien, il partait du nord du Groenland, exactement du Cap Columbia, du nord de la terre d'Ellesmer, consistait justement à s'approcher du pôle Nord, d'abord par un très grand nombre de traîneaux et un très grand nombre d'équipes qui transportaient le matériel, et après chaque étape, un certain nombre de traîneaux revenaient en arrière, comme une pyramide décroissante, pour enfin, pour la dernière étape, ne laisser qu'au dernier groupe le soin d'atteindre le pôle Nord. Ce dernier groupe, qui était composé de Péri, de son ami et aide, valet de chambre d'ailleurs aussi, Hansen, le noir, le nègre, qui de tout temps l'a suivi, et trois Esquimaux qui l'accompagnaient, trois Esquimaux de ses amis de Thule.
Je naquis à Charles County dans le Maryland le 8 août 1866, sur les bords de la rivière Potomac, à environ 70 km au sud de Washington, D.C. L'époque de l'esclavage était définitivement révolue quand je vins au monde. D'ailleurs, mes deux parents me précédèrent en naissant tous deux libres, et dans les veines de ma mère coulait du sang blanc. À un âge précoce, mes parents furent incités à quitter le comté pour s'installer à Washington. Ma mère décéda lors de ma 7e année. Sous la charge de mon oncle, je fus envoyé à l'école N Street, que je fréquentais durant 6 années. Après avoir quitté l'école, j'allais à Baltimore, dans le Maryland, où j'embarquais en tant que garçon de cabine sur un vaisseau à destination de la Chine.
Kamel Bouquier, on vient d'entendre les premières lignes du récit autobiographique qu'a fait Hanson de ses jeunes années américaines. Très tôt marqué, on l'a entendu, par le deuil de sa maman, mais aussi de son papa, il n'en parle pas là, dans ses lignes. Par la pauvreté aussi, par la misère, quand on imagine forcément la vie d'un gamin noir orphelin de la fin du 19e siècle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son enfance et combler justement ce que ne dit pas Hanson dans ces quelques lignes ?
Alors, en fin de compte, on sait très peu de choses sur l'enfance de Matthew Hanson. Mais ce que je peux dire, c'est que en écho à la forme de surprise qui a inauguré le désir de comprendre sa trajectoire, il y avait ce décalage entre le titre où il annonce une autobiographie et quand on lit le livre, une impasse complète sur ce qu'on peut savoir de cette époque-là. Ce qu'on appelle l'ère de la reconstruction après la guerre civile, où les Noirs vont vivre ce que certains ont appelé une forme d'expérience démocratique radicale, mais qui va vite s'éteindre sous l'effet de ce qu'ensuite on a appelé l'ère ségrégationniste, dont un arrêt de la Cour suprême, qu'on appelle l'arrêt Plessy vs Ferguson, va établir la doctrine qu'on a appelée « séparés mais égaux ». Donc « égaux mais séparés ». Et donc quand on sait ça, on est étonné de comprendre quelles sont les transformations sociologique, historique, politique et même sa trajectoire biographique qui lui permettent, lui, d'arriver au pôle Nord. C'est une personne qui est née dans un état très particulier qui est l'état du Maryland et qui est des états charnières entre le Nord et le Sud et qui vont du coup ne pas faire sécession aux états de l'Union en gardant une législation très proche des états esclavagistes.
Parce qu'il y avait aussi des grandes plantations de tabac, donc ils avaient peut-être aussi plutôt intérêt à garder ce système esclavagiste.
Tout à fait. Et en même temps, alors c'est vraiment très particulier, je vais en dire quelques mots, parce que ça donne à comprendre comment en fait il a pu devenir explorateur, marin, un marin accompli. En fait, avant de rencontrer Robert Perry, c'est déjà un marin accompli. Il a été en mer de Chine, il a été en Inde, je crois, en France, à Marseille. Il a beaucoup voyagé. Et ça s'explique précisément parce que le Maryland a été un haut lieu de la culture des Quakers, qui sont des chrétiens schismatiques, qui avaient mis au cœur de leurs croyances le message évangélique. Et donc, ils ont été très tôt, malgré l'absence de législation qui interdisait l'esclavage, ça a été les premiers, je crois, autour de 1770, à commencer de libérer les esclaves, à les affranchir. Et donc, l'État du Maryland a développé une culture de la navigation chez les Noirs affranchis, ou ceux qui voulaient s'enfuir des États du Sud pour remonter vers le Nord. Et notamment dans les grandes villes portuaires, qui va être très important, c'est Baltimore. Un cinquième des esclaves affranchis travaille dans l'industrie portuaire. Il y avait des ouvriers, des bouchers, etc. Et donc il y avait comme ça toute une culture d'affranchis qui cultivait cette sorte de volonté de liberté un peu intrépide et qui jouait son va-tout à une époque où les Noirs se sentaient investis d'une sorte de message messianique. Ils entrevoyaient que l'esclavage était en train de se terminer, mais ils n'étaient pas tout à fait encore intégrés au corps politique. Et ils étaient comme ça investis, notamment des grandes figures tutélaires, de venir faire basculer ce moment historique. Et donc Matthew Hanson est l'une d'elles, une figure parmi tant d'autres dans lesquelles les Noirs se reconnaissent.
Alors pour revenir à la trajectoire de Matthew Hansen, après avoir navigué sur les eaux du monde, en 1888, revenu à terre et âgé tout juste de 22 ans, il va faire la rencontre décisive de sa vie et qui va le guider toujours plus au nord, celle de Robert Peary. Alors dans un contexte improbable, puisque c'était dans un magasin de chapeaux. Après quoi, il va justement le suivre au Nicaragua, puis dans les expéditions polaires, la première étant en 1888. Et au fil de ses multiples voyages avec Robert Peary, Matthew Hansen va se révéler un allié précieux. Il est le seul à parler l'inuit, l'inuktitut exactement. Il se révèle aussi un très bon conducteur de traîneau à chien, un navigateur hors pair. Ce qui fera dire à Peary, alors amputé de 8 orteils après un douloureux hivernage, sur le fait d'atteindre le pôle, je ne peux pas y arriver sans lui. Il faut dire qu'Hansen lui a sauvé la vie plus d'une fois.
Pendant 6 épouvantables semaines, Peary dut rester allongé dans un refuge. 6 longues semaines pendant lesquelles il ressentit d'atroces douleurs. Seule la vigilance de Matt Hansen et son propre courage lui permirent de résister.
Monsieur Peary, les Esquimaux Hemingway et Uta sont rentrés avec les chiens. Ils ont repéré les traces d'un bœuf musqué. Ils viennent de repartir à sa recherche.
Matt, ces deux petits hommes bruns sont le sel de la terre.
Oui, monsieur Peary. Si nous rentrons vivants, ce sera bien grâce à eux.
Nous rentrerons, Matt. Et quand mes pieds iront mieux, nous reviendrons. Et nous trouverons le chemin du pôle Nord.
Et s'il n'y avait pas de chemin, monsieur Peary?
Matt, peux-tu lire ce que j'ai écrit sur le mur?
Inveniam viam aut faciam. C'est du latin, monsieur Peary?
Oui, Matt, c'est du latin. Et cela veut dire, je trouverai un chemin, ou bien alors j'en tracerai un.
Ils ont vécu dans des conditions dramatiques en 1906-1907, et ce n'est véritablement qu'en 1908 qu'avec le bateau Roosevelt, qui a été spécialement construit pour lui, à vapeur, qu'il a pu forcer les glaces jusqu'au cap Columbia, c'est-à-dire aux abords de l'océan glacial, et partir un petit matin de février avec une dizaine de traîneaux vers le pôle.
Le 25 mars 1909. À 4h30, tout bascula. Devant nous, une tempête de neige s'abattait avec constance. 15 minutes après notre petit déjeuner, nous travaillâmes une fois de plus au balisage de la piste. Au bout d'une heure de travail, une piste fut taillée. Je reçus mes ordres du commandant Peary qui me convoqua en aparté. Le commandant Peary escomptait que je prenne tout de suite la charge de la piste en précipitant le rythme et que je couvre le plus de distance possible. Nous connaissions le plan général du commandant Peary. Certaines équipes devaient tourner les talons plein sud pour la terre ferme et le navire. Par contre, nous ne savions pas de qui ces équipes seraient constituées ni qui les commanderait. Ma respiration reprit doucement et mon esprit se soulagea. Mon tour n'était pas encore venu. Je devais continuer de l'avant avec une seule personne gisant entre le pôle et moi, le capitaine.
Kamel Boukia, dans le dernier extrait qu'on vient d'entendre, extrait du journal de bord de Hansen, on mesure la folie, l'ampleur en tout cas de cette dernière expédition de 1909, où il s'agissait en fait d'avancer coûte que coûte dans un raid vers le pôle, parce qu'ils partent déjà dans la nuit polaire, ils dorment dans des igloos qu'ils refont sans cesse à mesure qu'ils avancent, ils se battent aussi contre des ours qui les assaillent en permanence. Enfin, ça a l'air d'être, vous l'aviez dit, un enfer, mais aussi une opération, en regard peut-être aussi du contexte, une opération d'envergure presque militaire.
Oui, il y a quand même un esprit d'inventivité chez les deux compagnons, Hansen et Peary, qui va leur permettre, contrairement à d'autres explorateurs, d'arriver très très proche. Donc effectivement, ce n'était pas la première tentative, mais là, ce qu'ils vont mettre en place, en fait, ils vont venir très très tôt, avant la nuit polaire, avant le grand froid, et ils vont construire des caches de nourriture pour être sûr que sur leur passage, en cas de nécessité, ils auraient toujours la possibilité d'être alimentés.
Sachant donc, qu'il y avait 19 traîneaux, pardon, je vous interromps, non, 24 hommes.
Effectivement, c'est monumental, on ne se le représente pas. C'est des centaines de chiens, plus de 200, je crois 280. Dans les précédentes expéditions, il y en a parfois certaines qui conduisaient à la mort de quasiment tous les chiens par une dizaine. C'est des tonnes de viande de baleine. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ils venaient très tôt. C'était pour bénéficier de la saison, disons, chaude, pour abattre le plus possible de nourriture. Donc baleine, morse, renne. De disposer du coup dans des caches avec des igloos, avec cette difficulté que les igloos sont parfois mouvants, parce que certains étaient sur la terre ferme, et puis d'autres étaient sur la banquise. Et ensuite, la méthode, elle a consisté, du coup, à mettre Perry dans le dernier wagon pour le ménager, et pour qu'il soit le plus frais, pour ce que lui, il appelait l'assaut final. Et tous les autres membres de l'expédition étaient chargés de tailler la glace à tour de rôle, avec du coup une équipe qui était devancière, et donc ils s'alternaient comme ça pour aller le plus loin possible, jusqu'à ce que, au-delà du 86e degré de latitude nord, il ne restait plus que Perry et Hanson pour terminer l'assaut.
Alors pour y arriver, Perry s'est aussi largement inspiré des Inuits, qui mieux que quiconque savent comment survivre au pôle. Hanson parlait leur langue, il a pu forcément donc partager, assimiler tout leur savoir technique. Et plus largement, en 23 ans d'expédition, nos deux hommes, Perry et Hanson, vont là-bas, au pôle Nord, s'inventer une autre vie, une double vie même, parmi les Inuits, puisque tous deux auront des enfants là-bas. Alors qu'ils ont des épouses en Amérique. Ce que ne dit pas Hanson dans son journal, pas plus que Perry d'ailleurs.
Non, ça n'est pas explicitement évoqué. On peut en avoir une indication dans le journal de la femme de Perry. Joséphine Perry était très au fait de
la double vie et des deux familles qu'avait Perry.
Famille qu'il menait. Et donc, ce qu'on a du mal à se représenter, donc sans justifier ce qui s'y est passé, il y a un anthropologue qui a bien travaillé là-dessus et qui s'appelle Harvard Alan Counter, donc avec une approche aussi un peu féministe de la question, parce qu'effectivement, les femmes, on en dit très peu de choses alors qu'elles sont à pied d'œuvre constamment pour la confection des peaux d'animaux. Donc ça faisait partie aussi du plan de Perry, c'était de se vêtir... et d'utiliser les...
Tout en fourrure.
Voilà, donc des vêtements de fourrure, les camiques, qui sont les moufles d'ours ou les bottes en peau de phoque. Mais ça ne va pas de soi, parce que les précédentes expéditions, notamment celles en Antarctique, ou même certaines au pôle Nord, on faisait venir des mules d'Europe, qui mouraient toutes dans les premiers mois. Donc il a fallu un certain temps aux explorateurs pour se défaire aussi de cette idée qu'ils étaient à la pointe du progrès. Et donc, il a fallu qu'ils laissent en cours de route, enfin, en chemin, leurs prétentions.
Leurs illusions de conquête et de supériorité aussi, d'une certaine
voilà,
manière.
Voilà, c'est ça qui se jouait. C'était de se mettre à l'école des Inuits. Et ce qui a constitué une sorte de proto-ethnographie, ça a été les premiers Hanson et Perry, comme je le disais là à l'instant, à se mettre à l'école des Inuits pour apprendre quelque chose.
Alors Kamel Bouquir, pour revenir à cette expédition de 1909, surnommée à tort la découverte du pôle, dans le journal d'Hanson, on cherche en fait de quoi, comment dire, briser un peu la glace, puisqu'il y a beaucoup d'éléments factuels, et on a envie d'atteindre la chair en fait de cette expédition humaine, parce qu'en en fait à l'intérieur il y a quand même peu de confidences, il y a peu de mythes aussi écornés, puisque à longueur de journal, Hanson loue la persévérance, la bravoure de son commandant, il écrit. Tout au plus, il évoque brièvement l'attitude militaire de Perry. Mais il y a quand même une scène, celle du 6 avril 1909, le jour de la fameuse découverte où le pôle est atteint et les drapeaux plantés. Hanson raconte comment lui se dégante et cherche à serrer la main de Perry pour congratuler, écrit-il, nos 18 ans d'efforts. Sauf que là, il y a une rafale de vent ou autre chose qui fait tourner le dos à Perry, qui lui serra pas la main. Il n'y a pas d'accolade, il n'y a pas de fraternité, en tout cas, qui ressort de ces lignes. Comment vous interprétez-vous, justement, cette scène? Qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes?
Donc, en fait, le plan de Robert Perry aurait été, en fait, d'atteindre seul le pôle Nord. Ça aurait été de laisser, au moment de, juste d'atteindre le pôle, les dernières équipes, donc celles qui étaient constituées par Matthew Hanson, Et d'y aller, lui, avec l'Inuit, pour pouvoir revendiquer seul, au retour en Amérique, la primauté de la découverte du pôle. Sachant très bien, il savait que personne ne créditerait les Inuits de cette découverte. Donc, ce qui se joue là, c'est ça.
Parce qu'en fait, il arrive après.
Parce qu'en fait, voilà.
C'est ça qui
En fait,
dire.
L'histoire, c'est que, bon, on n'en est pas sûr, mais il semblerait que Matthew Henson soit arrivé le premier. Mais ça, personne n'a pu le vérifier, parce qu'ensuite, il y a eu une forte polémique sur la découverte réelle ou pas du pôle. Mais voilà, ce qui se joue à ce moment-là, c'est ça, c'est...
La déception
la
du
déception
commandant.
La déception et le sentiment d'une trahison. Aussi.
Alors, peut-être est-ce que ça explique aussi qu'à leur retour à Henson et Perry de cet exploit jusqu'à New York, Perry va cesser toute correspondance avec son compagnon, il ne reverra jamais Henson. Il faut dire aussi que, et vous l'avez évoqué, dès son retour, le commandant conquérant du pôle est aux prises avec une furieuse controverse qui va passionner l'Amérique, car en parallèle de son expédition, le docteur Frederick Cook, parti un an avant Perry en 1908, revendique être arrivé, lui, le premier au pôle. Archivina France Culture, Jean Mallory, 1984.
Piret était très souverain dans ces régions qu'il considérait véritablement à lui, my Eskimos, mes Eskimos. Il avait empêché les Norvégiens de s'approcher de cette région. Mais j'aurais tendance à considérer que pendant ces derniers jours, il était habité véritablement par Cook. Cook était en lui. Il le savait plus jeune, il le savait plus audacieux. Partir avec deux traîneaux, deux jeunes Esquimaux de 20 ans pour conquérir un pôle qui s'était refusé pendant des siècles aux hommes, il fallait non pas une folie, car aucun d'entre eux n'était fou. L'organisation de Cook était remarquable. Knud Rasmussen, qui avait vu toute l'organisation de Cook avant le départ, a déclaré, Knud Rasmussen est un des grands explorateurs danois, qu'il n'avait jamais vu une expédition mieux pensée. Et Piret était véritablement choqué dans sa dignité d'explorateur souverain de savoir qu'un homme seul était dans ces régions. Il voulait être seul au pôle Nord.
Henson is one of the great names in American exploration for the vital part he played in Commodore Perry's historic North Pole expedition of 1909. Many honors have come to him. The first Negro to stand at the top of the world.
Don't say no, got to go to see the minstrel show. There's a riddle that I'd love to know.
Avec cette chanson du Minstrel Show, on a fait un grand saut, on retourne aux États-Unis. Le Minstrel Show, c'est un genre de spectacle très populaire aux États-Unis au 19e siècle. Et à ce spectacle, à ce son, il faut bien sûr ajouter l'image, celle d'un homme blanc, sur scène, le visage noirci avec ce fameux blackface. Vous, Kamel Boukir, assez rapidement, dans votre préface au journal de Henson, vous convoquez cette figure du blackface et évidemment tous les stéréotypes racistes qu'elle charrie sur les Noirs pour raconter cette époque qu'a connue Henson. Et on se dit que justement Henson a dû entendre tellement de fois de préjugés racistes, notamment celui qui était connu à l'époque et qui a dû lui être adressé que les Noirs ne supporteraient par exemple pas le froid.
Oui, l'une des expressions récurrentes, c'est de parler de Henson comme l'enfant des tropiques. On voit là qu'il y a, des stéréotypes très qui sont inscrits dans l'histoire américaine. Et donc, le récit, en fait, c'est pour ça que c'est un récit de circonstances dans lequel Henson ne se livre pas.
Parce qu'il est contraint, en fait.
En fait, il est contraint d'abord parce que l'arrêt de la Cour suprême que j'ai évoqué tout à l'heure, du coup, s'applique au droit privé, dont fait partie les contrats, par exemple, d'auteur. Donc il y a beaucoup de limites qui sont restrictives pour les Noirs dans ce qu'ils peuvent faire, peuvent dire, etc. Et donc en fait, les petits indices que glisse Matthew Henson dans le livre en fait, sont destinés à être une épreuve contrefactuelle par le simple fait de raconter avec beaucoup de sobriété et d'humilité ce qu'il a fait au pôle Nord pendant ses plus de 20 ans, de montrer l'inanité de ses...
De
ce mur de la couleur qui persiste. Et qu'on trouve de manière très récurrente, par exemple, Le texte, en fait, très sobre de Matthew Henson, ne cesse de contredire cette suprématie, simplement en décrivant ce qu'il fait par le menu.
Et en même temps, il vient aussi légitimer le record de Perry, puisqu'on l'a entendu, c'est un record très contesté. On a mis beaucoup de temps à dire que finalement, l'expédition Perry était la première au pôle. En tout cas, il y a eu un arbitrage par la Société de géographie américaine qui a dit que finalement, c'était plus Perry que Cook. Mais il y avait quand même, dans cette époque, et le journal de Henson est paru en 1912, il y avait besoin d'asseoir quand même la légitimité de cette expédition.
C'est pour ça que je disais que c'était un écrit de circonstance. La circonstance, en l'espèce, c'est celle de venir amender le récit de Robert Perry.
Sachant qu'à leur retour, Robert Perry sera couvert d'honneur. Il aura cette gloire tant désirée. Matthew Henson, on ne peut pas dire exactement la même chose. Il va décéder en 1955 et finalement, de son vivant, il ne verra pas aussi peu sa participation dans cet exploit loué à sa juste valeur. Pas plus qu'il ne verra la fin de la ségrégation raciale, qui n'interviendra aux États-Unis qu'en 1964. Avec le Civil Rights Act, après des décennies de lutte, surtout des Noirs américains pour l'égalité. Et la même année, 1964, Sam Cooke chantait « A Change is Gonna Come ». I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. Up there beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
Si loin, si proche. Écoutez.
Tu sais quoi, Corto ? Je suis obligé de passer ma vie à entendre que nous, les Noirs, nous sommes des bons à rien, que nous sommes des fainéants et des menteurs, que nous ne valons rien ni comme marins ni comme pêcheurs. Mais moi, j'ai trouvé la profession qui nous convient parfaitement, explorateur arctique. Si nous nous perdons dans la neige maintenant, quel est celui qu'on trouvera en premier ? Un petit blanc comme toi ou un gars comme moi, noir comme le charbon ?
Ne fais pas le modeste, Matt. Si tu le voulais, tu pourrais prétendre être le premier homme à avoir posé le pied au pôle Nord.
À si loin, si proche, avec l'anthropologue Kamel Boukir, qui a traduit et longuement préfacé le journal de bord de Matthew Henson, on avance toujours à la découverte de cette figure méconnue de l'exploration polaire. Dans cette BD de Corto Maltese qu'on vient d'entendre, Matthew Henson se dit visible dans les grandes étendues polaires, il s'en amuse. Par contre, difficile d'en dire autant dans nos mémoires, car oui, qui sait que le premier occidental à avoir atteint le pôle était un homme noir ? Kamel Boukir, dans votre préface au journal de bord de Henson, vous revenez longuement sur le contexte de l'exploit en 1909 d'Henson et Perry et son effacement dans nos mémoires. Vous parlez justement d'amnésie collective, de cécité. Et on se dit, en se penchant sur la trajectoire d'Henson, que finalement elle vient aussi interroger les fondements de l'Amérique moderne, c'est-à-dire celle qui a vaincu les Indiens et justifié, je réduis grossièrement, mais en tout cas, et justifier l'esclavage par la théorie des races. Gros sujet.
Gros sujet. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que souvent, l'histoire, elle s'écrit en creux, en érigeant certaines figures tutélaires, comme celle de Perry, et du coup, en effaçant d'autres. Et donc, l'idée, donc, c'est pas moi qui la défends, c'est quelqu'un comme Michel de Certeau, dans un livre fameux qui s'appelle « Les absents de l'histoire », c'est qu'il y a toujours des absents ou ceux qui sont les vaincus de l'histoire. L'histoire, elle est toujours écrite par
les vainqueurs.
Voilà, par les vainqueurs, par ceux qui entreprennent de l'écrire. Et à cette époque-là, écrire, c'est une activité essentiellement réservée à une certaine catégorie de la population.
Et en fait, une élite blanche, on peut dire.
Une élite blanche. Et en fait, justement, Matthew Henson est vraiment dans cette période charnière où les Noirs vont trouver le ressort de leur propre émancipation. Et donc, notamment dans l'éducation. Le livre qui a été édité par les Zones Sensibles a gardé la préface originale de 1912, le préfacier qui est en fait l'un des grandes figures de
la cause noire.
De la cause noire, qui s'appelle Booker T. Washington, et qui était dans une grande contradiction avec un autre qui s'appelait Du Bois, et où ils essayaient de discuter de la meilleure façon de rendre justice à la cause noire. Et donc, en fait, Matthew Henson est très important dans cette histoire-là parce qu'il figure l'une des possibilités derrière le sillage de Booker Washington qui était celle d'œuvrer au progrès des Blancs pour servir la cause des Noirs. Du Bois avait une toute autre idée qui était celle de la revendication des droits, coûte que coûte, quitte à renverser le régime oppressif.
Alors, on vous a réservé justement un petit extrait qui fait référence à la figure de Booker T. Washington, figure de la cause noire au XXe siècle. Extrait de Ragtime, immense film de Milos Forman, dans lequel le personnage central du film, Cool House Walker, pianiste noir du début du XXe siècle, décide à regret et après avoir usé de tous les moyens légaux de recourir à la force pour réparer l'injustice dont Tom Noir il a été victime. Et voilà ce que lui dit alors Booker T. Washington.
Au nom de notre peuple, ouvrez la porte!
C'est un honneur de vous rencontrer, Monsieur Washington.
Ainsi, vous avez entendu parler de moi.
C'est bien évident. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, monsieur.
C'est sincère?
Tout à fait.
Et vous dites ça bien que par votre action, vous vous moquiez de tout ce que j'ai toujours défendu?
C'était la seule solution.
Monsieur Walker, j'ai voué une vie d'homme à tenter de convaincre nos frères blancs que nous n'étions pas à redouter. Nous ne demandons qu'à travailler à leur côté et à prospérer main dans la main, à goûter avec eux aux fruits de ce grand pays. Or, l'exemple donné par un millier de Noirs, honnêtes et actifs, sera terni par la faute d'un seul, vous. Votre geste inconsidéré nous a imposé un recul incommensurable. Et vous dites que vous m'admirez.
Kamel Bouquir, marcher main dans la main de l'homme blanc, c'est le choix qu'a fait finalement Henson. Son exploit a valeur d'exemple, de modèle pour les autres noirs du pays. Et cette conception de l'émancipation noire, vous en avez parlé, qui est défendue à l'époque par Booker T. Washington, qui va cofonder le Tuskegee Institute, une école modèle, en quelque sorte, pour les Noirs situés en Alabama. Cette conception a fait des émules, mais vous l'avez dit, elle avait aussi ses détracteurs, parce que finalement se jouait à ce moment-là la question de comment s'émanciper. Avec d'un côté, finalement, la besogne qui fait modèle, une exemplarité des Noirs. En tout cas, c'est la conception de Booker T. Washington. Et de l'autre, la lutte, finalement.
C'est ça, Booker T. Washington appelait
ça... Ou le rapport de force.
En tout cas, de pas le refuser par principe, le rapport de force. C'était, pour Du Bois, ne pas forcément s'y précipiter, mais ne pas refuser si c'était l'ultime
recours,
alors que Booker Washington, lui, ce qu'il ne voulait pas, c'était l'entre-déchirement des peuples. La fin du 19e siècle, c'est l'apogée du Ku Klux Klan, des lynchages, etc. Donc il faut avoir en tête toutes ces circonstances-là.
Sachant qu'il y avait aussi le poids de l'Église, Booker T. Washington, Henson aussi était très pieux, donc il y avait cette idée de message d'amour à l'ennemi, finalement.
Effectivement, les Noirs chrétiens de ce moment-là vont se réemparer du message évangélique pour le porter à sa radicalité qui était perdue dans les cales de bateaux qui emmenaient les esclaves, en gros. Et ce qui se joue, et là c'est au cœur du texte, tout à l'heure je parlais de petits jalon ou d'indice. Là, on est au foyer de ce qui constitue la critique de Hanson du régime ségrégationniste. C'est le message évangélique. Et notamment, l'indice qui est suggéré à la page 66 du livre, c'est lorsqu'il dit qu'il aimait à lire le sermon de la montagne et le psaume 23 pour se réconforter. Le psaume 23, c'est la parabole de Dieu comme berger. Est-ce qu'on prend facilement dans le contexte de dangerosité des pôles? En revanche, le sermon de la montagne, ça rejoint précisément en fait le message de Washington, qui était celle de ne pas se laisser avilir par la violence des Blancs, qui nous rabaisserait à la violence si on décidait d'y succomber.
Et de rester dignement à tendre la main.
Exactement. Et donc, c'est vraiment le message évangélique porté à sa radicalité.
Alors, vous l'avez dit, dans le journal de Hanson, la question raciale n'apparaît pas clairement. Tout au plus, comme Washington, dans la préface qu'il a faite du journal, il rappelle que les grandes découvertes faites par les Blancs se sont toujours faites accompagnées d'un Noir. Mmh. Il l'écrit en 1912, « De la découverte du Nouveau Monde jusqu'au pôle Nord, le Noir fut le fidèle et constant compagnon du Caucasien. » Tiens, en parlant de découverte de l'Amérique, cette rencontre fondatrice entre le civilisé prétendu et l'autochtone sauvage déclaré, l'expédition de Hanson et Perry renvoie aussi à de grandes questions morales à propos des Inuits cette fois.
Les Esquimaux polaires, ce sont les hommes les plus au nord du monde et qui ont été complètement installés dans une autre société par Piret afin de pouvoir les utiliser comme des Sherpas. Et il a le talent de leur donner juste ce qu'il faut pour qu'ils désirent son retour. C'est-à-dire quelques fusils, mais pas assez de munitions pour que ça puisse être, dirait, Piret. Or, comme il n'y a pas de comptoir, ils sont à la solde de Piret. Et la moitié du groupe aide cet homme pour aller précisément vers ce lieu mythique. Alors, le drame est le suivant. C'est que Piret, qui n'est pas du tout un scientifique, a besoin d'une caution. Donc, il demande au Musée américain d'histoire naturelle, qu'est-ce que je peux faire? On lui dit, mais écoutez, rapportez des squelettes. Oh, qu'à cela tienne, en effet, il a provoqué une épidémie. Ce n'est pas tout à fait vierge de toute contamination et prend, il met dans des barriques les squelettes de ses compagnons, qu'il va, non pas donner, mais vendre au Musée américain d'histoire naturelle. Et lors de ce passage, un des grands savants qui a fondé l'anthropologie américaine, Franz Boas, et un autre, Alfred Kruber, à la demande de ces deux savants, il va faire venir des Esquimaux vivants. Ils partent en groupe, ils sont six. Quand ils arrivent aux États-Unis, la frénésie pour les Esquimaux est immense. Les guerres indiennes sont terminées, ces guerres honteuses. Mais les Esquimaux restent un objet d'une immense curiosité. Ce qui fait que sur le bateau, 30 000 visiteurs sont là, payant 25 cents pour apercevoir les Esquimaux.
Toujours l'argent, oui.
Mais le drame arrive. Très vite, ils sont frappés par la tuberculose et cinq meurent, l'un après l'autre.
Kamel Boukir, dans cette archive INA France Inter de 1997, Jean Mallory, grand spécialiste du pôle Nord et des Inuits, raconte, comme il l'a toujours fait en fait, les compromissions scientifiques, morales qui vont se jouer parfois dans ces terres lointaines, là-bas, loin des regards et de toute conscience. On se dit aussi qu'Hanson a été spectateur, acteur de cette relation finalement ambiguë, intéressée qu'avait Perry avec les Inuits. Puisque la suite de l'histoire que vient de nous raconter Jean Mallory à propos de ces Esquimaux morts aux États-Unis dont on a revendu les squelettes, finalement elle tient en un prénom, vous me voyez venir, celui d'un petit enfant minique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire?
Oui, je peux. Alors Minik, c'est le seul enfant rescapé du groupe des Inuits qui était du coup considéré comme des spécimens vivants qu'on venait
de ramener aux États-Unis.
Ramener aux États-Unis dans des foires. Ce qu'on peut préciser derrière Mallory, c'est cette grande ambiguïté qui était constitutive de ce voyage vers la différence. La plupart des anthropologues de l'époque voyageaient une à deux fois et ensuite faisaient de l'anthropologie de cabinet. Donc pour obvier à cette obligation de voyager, on faisait venir les spécimens. Parfois c'était monnayé, donc parfois c'était une entente tacite. D'autres qui étaient arrachés à leur terre, et Minik est l'un de ceux-là, puisqu'il était enfant à ce moment-là. Et donc il va être ensuite adopté par le président du musée d'histoire naturelle de l'époque, qui est un grand banquier philanthrope qui s'appelle Maurice Ketchum Jessop, qui a laissé son nom à un cap dans la terre d'Elsmer. Et donc, Milnick va s'apercevoir, arrivé adolescent, que les galeries du musée, dans des bocaux de formol, hébergent les restes de son père, donc un cerveau.
Puisque son père fait partie de ces Inuits qui sont décédés aux États-Unis. Voilà. Et on lui avait justement dit, il a même assisté à l'enterrement de son père, avec toutes les huiles justement du Muséum d'histoire naturelle de New York. Et finalement, il se rend compte des années après, une fois au musée, que derrière les vitrines, c'est le squelette de son père.
Voilà. Donc il y a une grande mise en scène qui est faite pour essayer de respecter les derniers désirs des défunts, et donc qui est d'être inhumé comme on le fait chez eux. En fait, la bataille qui est en train de se jouer derrière l'enfant, parce que l'hôpital veut les restes, Robert Perry les réclame, et le musée d'histoire naturelle les réclame. Finalement, ils vont s'arranger en départissant les parties molles, muscles, etc., les parties osseuses et le cerveau.
Mais c'est quand même, quand on vous écoute, un truc, pardon de le dire comme ça, mais c'est quand même, on a ce mot en tête qui revient, c'est presque une entreprise de charognard.
C'est
odieux.
On
se dit que c'est quand même un contexte de prédation assez folle. Hanson connaît, sait tout ça, puisque lui-même fait le traducteur. Et dans son journal, on retrouve très peu d'indices.
Alors, il y en a un qui est fort, et après je laisserai les lecteurs le découvrir. C'est la citation de la pièce d'Othello dont on sait, où le mort de Venise, c'est l'autre qui n'est pas chez lui. On sait très bien que c'est une allégorie de l'altérité. Et donc, il y a comme ça des indices que moi, je donne à mieux comprendre pour en comprendre la portée, et qui revient précisément ce que vous avez évoqué, ce caractère odieux.
Alors pour conclure, Kamel Bouquir, la mémoire d'Hanson, qui donc, je l'ai dit, est décédé en 55, qui à son retour va être loué pour sa participation, mais en tant qu'aide, en tant que serviteur, il va recevoir une petite pension, une montre en or, c'est à peu près ça. Donc sa mémoire va finalement, dans les années 80, être enfin honorée à sa juste valeur, une reconnaissance donc tardive, qui là aussi va avoir pour effet, c'est encore une affaire de squelette, mais de le déterrer et déplacer au cimetière national et militaire d'Arlington, aux côtés de Perry.
Tout à fait. Paris, là, il a fallu une bataille juridique incroyable, parce que le cimetière militaire, un règlement du coup très strict, et seuls les militaires peuvent y être enterrés. Il a fallu que le mouvement des droits civiques dans les années 60-70 s'empare de cette figure-là, qu'on en fasse un dessin animé, des BD, etc., pour qu'en fait, du coup, il y ait tout un pan de cette histoire oubliée qui émerge à la surface, et que, du coup, les héritiers de cette histoire des oubliés commencent à militer pour...
Une reconnaissance.
Une reconnaissance, et puis parfois c'est simplement un goût de la justice, ou un goût de la vérité, tout simplement, de savoir ce qui s'est réellement passé. Ce qui n'a pas été fait en France. Donc c'est pour ça, moi, j'ai voulu faire ce travail-là. Hanson va être décoré en 2009, je crois, de la médaille Hubbard, qui est la plus haute distinction de la National Geographic Society, dont a été décoré Robert Perry en 1909, donc il y a quasiment un siècle. Et ce que ça dit, en tout cas ce que ça plaide, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est une sorte de mur de la couleur. Puis à la fois, dans les mots de Hanson, la présence est criante, noire comme le charbon sur la neige immaculée. Et en même temps, on sait la chose, mais on ne parvient pas à se l'avouer à soi-même.
Kamel Bouquir, merci. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez traduit et longuement préfacé, une préface passionnante, je tiens à le dire. Journal d'un explorateur noir au pôle Nord, paru aux éditions Zone Sensible. Merci à Simon De Creuse pour ses lectures et merci à la Sonothèque de RFI pour ses précieuses archives. Céline Develay-Mazurel, Laura Larry, on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Et d'ici là, faites de beaux voyages, fussent-ils intérieurs.
Appel sur l'actualité est à